VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahmane Dia en direct de Washington pour cette édition de 18h30 en universel. Nous sommes mercredi 11 avril 2018 au sommaire. Plus de 200 personnes ont perdu la vie dans le crash d'un avion de l'armée algérienne. Le président Bouteflika a décrété un deuil national de 3 jours. En Centrafrique, retour au calme à Bangui après les affrontements au quartier PK5 qui ont fait plus de 20 morts. En République démocratique du Congo, l'opposition exige un audit du fichier électoral. Et puis aux États-Unis, le président Donald Trump prévient la Russie qu'il va lancer des missiles en Syrie. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a décrété un deuil national de 3 jours après le crash d'un avion de l'armée qui a fait 257 morts, majoritairement des militaires et des membres de leur famille. C'est la pire catastrophe aérienne qu'ait connue l'Algérie. Clairement, Angibourg.
Les images tournent en boucle sur les télévisions algériennes. Une épaisse fumée noire se dégage de l'épave de l'appareil dans un champ situé à une centaine de mètres seulement de l'enceinte de la base militaire de Boufarik. Située à une trentaine de kilomètres au sud d'Alger, la zone de l'accident est inhabitée, mais une personne au sol, le gardien du champ, a été blessée par des débris. Aucune hypothèse n'a été encore avancée pour expliquer l'accident. Les victimes sont les 10 membres d'équipage et 247 passagers, dont la plupart sont des personnels de l'armée nationale ainsi que des membres de leur famille, selon le ministère de la Défense. Ce bilan en fait la pire catastrophe aérienne civile ou militaire survenue en Algérie. C'est aussi le 4e accident d'avion le plus meurtrier au monde ces 20 dernières années.
Bangui, la capitale centrafricaine, est calme ce mercredi après une nouvelle flambée de violence hier dans le quartier musulman du PK5. Une opération de désarmement des bandes armées a fait plus d'une vingtaine de morts, en majorité des civils. Sur place à Bangui, on retrouve Freeman Sipila, le correspondant de VOA Afrique.
Même si un calme apparent a régné toute la journée ce mercredi dans la capitale centrafricaine, la tension y est encore palpable. Tôt dans la matinée, des manifestants quittant le PK5 ont déposé 17 corps de civils devant le quartier général de la MINUSCA. Des personnes tuées hier au cours du raid contre les bandes armées. Des corps enlevés peu de temps après par la Croix-Rouge. La Croix-Rouge qui a annoncé par ailleurs avoir ramassé 9 autres corps et déposé à la morgue. De son côté, la MINUSCA, la force de l'ONU, a signalé 1 mort et 9 blessés, tous membres du contingent rwandais.
En République démocratique du Congo, l'opposition dit non à la machine à voter et exige l'audit du fichier électoral. Ses principaux partis et regroupements politiques l'ont fait savoir ce mercredi à Kinshasa, où nous retrouvons Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire sur place.
Dans une déclaration commune lue au siège du Mouvement de libération du Congo à Kinshasa, l'UDPS, le MLC, l'UNC, ensemble de Moïse Katumbi et Congo Nabiso de Freddy Matungulu contestent les chiffres publiés par la Commission électorale nationale indépendante le vendredi dernier sur le nettoyage du fichier électoral et exigent en même temps des mesures correctives pour garantir, selon eux, la crédibilité des résultats des prochaines élections. Félix Tshisekedi de l'UDPS, Eve Bazaïba du MLC, Jean Baudouin Maillot de l'UNC et Pierre Lumbi, l'ensemble de Moïse Katumbi, expriment également leur rejet de la machine à voter au prochain scrutin pour notamment son caractère inconstitutionnel. Faisant allusion à la dernière déclaration de la commission électorale sud-coréenne, ils évoquent, je cite, « le risque d'une fraude à grande échelle en cas d'utilisation de la machine à voter proposée par la CENI ». Fin de citation. Ces leaders de l'opposition invitent par ailleurs le peuple à rester vigilant, à ne pas céder à la manipulation et à s'apprêter à exercer sans retenue son droit constitutionnel de changer démocratiquement le leadership de la République démocratique du Congo. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
L'opposition togolaise n'a pas pu manifester ce mercredi à Lomé, comme dans d'autres villes à l'intérieur du pays. Le gouvernement a interdit les dites manifestations et positionné des agents de l'ordre très tôt aux différents points de départ. Reportage à Lomé, Kay Lawson.
Étouffée dans l'œuvre, c'est en ces termes qu'on pourrait qualifier la manifestation de l'opposition togolaise de ce mercredi à Lomé. À peine les premiers manifestants ont tenté de se rassembler et demander aux automobilistes de prendre des déviations que les forces de l'ordre ont pris position. S'en est suivi des jets de gaz lacrymogènes et des courses-poursuites. Les manifestations étant interdites par le gouvernement, les forces de l'ordre déployées dans les coins stratégiques de la ville ont dispersé sans ménagement tout attroupement aux grandes dames des manifestants.
On veut démission, transition, élection au Togo. Parce qu'on est fatigué de tout.
Le régime s'est vraiment enraciné tellement qu'il n'y a pas de solution. Il faut un rapport de force. Je le répète encore, rapport de force.
Nous, nous sommes très décidés. Il peut faire tout. Il va partir. Fort, il doit partir.
Des manifestations sont encore prévues jeudi et samedi. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
La Cour de cassation du Niger a rejeté ce mercredi le pouvoir de l'opposant Amadou, condamné à 1 an de prison pour trafic de bébés. L'opposant qui vit à l'étranger doit donc rentrer au Niger afin de purger sa peine, selon une source judiciaire. Amadou, ancien premier ministre et ex-président du Parlement, est arrivé deuxième à la présidentielle de 2016. Avait été condamné par contumace à 1 an de prison en mars 2017 pour recel d'enfants dans un trafic international de bébés. Ses avocats avaient décidé de se pourvoir en cassation. Des milliers de Sud-Africains ont rendu un nouvel hommage populaire à Winnie Mandela, l'ancienne épouse du président Nelson Mandela. L'événement s'est déroulé dans un stade du township de Soweto. Le nouveau premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'est rendu ce mercredi à Ambo, dans l'ouest, un des foyers des manifestations antigouvernementales ayant mené à la chute de son prédécesseur. Sur place, il a demandé aux protestataires de lui laisser le temps de mettre en place les changements promis. Investi le 2 avril, M. Abiy est le premier chef du gouvernement de l'Éthiopie contemporaine, issu de l'ethnie Oromo, pourtant la plus importante du pays. C'est en région Oromo, d'ailleurs, que les manifestations antigouvernementales avaient débuté fin 2015, avant de s'étendre à d'autres zones.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aux États-Unis, le président de la Chambre des représentants américains, Paul Ryan, prend sa retraite politique en janvier. Il a annoncé qu'il ne se représentera pas aux élections parlementaires de novembre. Cette année sera ma dernière en tant que membre de la Chambre, a déclaré Paul Ryan lors d'une conférence de presse. Paul Ryan, 48 ans, est le président de la Chambre des représentants depuis 2015. Il est par conséquent le leader de la majorité républicaine au Congrès. Plusieurs autres parlementaires républicains ont déjà annoncé leur retraite. Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a réaffirmé ce mercredi devant le Congrès américain qu'il n'était pas opposé à une régulation de l'Internet et des réseaux sociaux. Il a toutefois ajouté qu'il fallait s'assurer que cette régulation ne nuise aux petites entreprises du secteur. Et puis le président américain Donald Trump a prévenu la Russie dans un tweet ce matin qu'il va lancer des missiles en Syrie suite à l'attaque chimique.
La confrontation entre les États-Unis et la Russie sur le dossier syrien s'est durcie. Moscou, soutien indéfectible de Damas, a opposé hier son veto au Conseil de sécurité à un projet de résolution américain visant à créer un mécanisme d'enquête indépendant sur le recours aux armes chimiques en Syrie. Mais en face, les Occidentaux, États-Unis et France en tête, ont redoublé de détermination après avoir fait clairement planer la menace de représailles militaires. La France mettra tout en œuvre contre l'impunité chimique, a assuré l'ambassadeur français François Delattre. Elle annoncera dans les prochains jours la décision sur sa riposte, a précisé à Paris le président Emmanuel Macron. S'inscrivant dans cette fièvre diplomatique, le président Donald Trump et la première ministre britannique Theresa May sont aussi tombés d'accord lors d'une conversation téléphonique pour ne pas laisser l'usage d'armes chimiques se poursuivre, a rapporté la Maison-Blanche. Washington entend même pousser le bouchon plus loin. Donald Trump a averti aujourd'hui la Russie, alliée de Bachar al-Assad, que des missiles seraient lancés sur la Syrie. Le président russe Vladimir Poutine, dont le pays a promis d'abattre tout missile lancé contre la Syrie, dit néanmoins espérer que le bon sens finira par l'emporter dans les relations internationales, actuellement de plus en plus chaotiques.
C'était les explications de John Lindon. La force de défense anti-aérienne en Arabie Saoudite a intercepté un missile dans le ciel de la capitale Riyad, ce qu'a indiqué aujourd'hui la chaîne de télévision Al Arabiya. Et puis au Brésil, un juge de la Cour suprême a demandé le report à la semaine prochaine d'un débat prévu initialement aujourd'hui et qui aurait pu aboutir à la libération de l'ex-président Lula da Silva. Il a été incarcéré il y a une semaine. Lula, 72 ans, a été condamné fin février en appel à 12 ans de prison pour corruption. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. C'est Eric Manirakizar qui nous présente la Minute Éco.
La Tunisie veut récupérer plus de 2 milliards de dollars de créances douteuses. La société tunisienne de banque, la Banque nationale agricole et la Banque de l'Habitat devraient faire l'objet de ce plan de récupération des créances. Le gouvernement envisage également la mise en place d'un comité de suivi des travaux en collaboration avec le Parlement pour créer un cadre législatif propice à cette opération. L'Afrique du Sud pourrait réduire de moitié son taux de pauvreté d'ici à 2030. Pour y arriver, la Banque mondiale encourage Pretoria à continuer les réformes politiques, économiques et sociales en vue d'encourager les investissements. Le développement des politiques de lutte contre la corruption, de gratuité de l'enseignement supérieur et de réforme de la gestion de l'industrie minière devrait permettre au pays de réussir le pari de la réduction de la pauvreté. D'après l'institution de Bretton Woods, la corruption, les inégalités et la criminalité constituent les principaux facteurs de pauvreté en Afrique du Sud. D'après les chiffres de Washington, la Chine détient presque 1170 milliards de dollars de bons du Trésor américain. Ce montant représente 20% du total de la dette des États-Unis aux mains d'institutions étrangères. Il constitue en apparence un levier redoutable pour d'éventuelles représailles chinoises en cas de conflit commercial.
C'est l'heure des sports et on retrouve tout de suite Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir, Abdou.
Suite et fin des quarts de finale, retour de la Ligue des Champions aujourd'hui.
Oui, Abdou, sur le papier, le Real Madrid n'a plus qu'une formalité à remplir face à la Juventus battue à l'aller 3-0 à Turin. Mais attention, la fameuse remontada de l'AS Rome face au FC Barcelone hier suscite de la prudence. Les doubles champions d'Europe en titre seront privés de leur patron en défense, Sergio Ramos, suspendu, mais peuvent toujours compter sur Cristiano Ronaldo, auteur à l'aller d'une bicyclette qui a fait le tour de la planète. Dans l'autre match de ce soir, le Bayern reçoit le FC Séville après sa victoire 2-1 chez les Andalous. Coup d'envoi de ces deux rencontres, 18h45, temps universel et donc dans deux petites minutes, Abdou.
Tout à fait. Et Ligue des Champions toujours, Mohamed Salah, l'Égyptien, a égalé le record d'Eto'o, le Cameroun.
Et oui, en inscrivant un but lors du succès 3-0 face à Manchester City, l'attaquant égyptien a porté son total de buts sur une saison de Ligue des Champions à 8 réalisations. Il a ainsi égalé le Camerounais Samuel Eto'o qui a inscrit 8 buts sur la saison 2010-2011. Salah et Eto'o sont talonnés par le Sénégalais Sadio Mané et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang. 7 réalisations chacun.
En Afrique, les affiches du dernier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2018 sont connues.
Achevé hier, le premier tour des éliminatoires a permis à 9 sélections de valider leur billet pour le second et dernier tour. Des qualifications qui auront lieu du 4 au 9 juin, exemptées du premier tour. Le Nigeria, 8 fois champion d'Afrique, le Cameroun et l'Afrique du Sud vont tous entrer en jeu, tout comme le Mali. Les affiches Côte d'Ivoire, Mali et Congo-Cameroun vaudront le détour, de même que le derby Zambie-Zimbabwe. La Gambie fait face au Nigeria, à suivre aussi Algérie-Éthiopie et les autos Afrique du Sud.
Et on termine par l'athlétisme. Des athlètes camerounais ont disparu aux Jeux du Commonwealth.
Ils sont 8 au total qui participaient à ces Jeux-là et qui ont disparu. Ils auraient pris la fuite d'après Simon Molombe, attaché de presse de la délégation camerounaise. Parmi eux, 3 haltérophiles Olivier Matam, Arcangeline Fuji et Petit Mikumba, ainsi que les boxeurs Christian Zinsoy et Simplice Fote Salah. Les organisateurs australiens des Jeux du Commonwealth ont appelé les athlètes à respecter les lois.
Et il y a aussi cette affaire des faux journalistes ghanéens également aux Jeux du Commonwealth. Merci beaucoup, Yacouba.
Merci à vous.
le monde. Aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe au dossier du jour. Retour sur l'accident d'un avion militaire algérien qui s'est écrasé ce mercredi matin près d'Alger, faisant 257 morts, majoritairement des militaires et des membres de leur famille. L'appareil de fabrication russe venait de décoller de la base aérienne de Boufarik à environ 25 km au sud-ouest d'Alger. Et pour en parler, John Lyndon a joint à Alger Mustapha Aït Mouhoub, le journaliste et rédacteur en chef d'Algérie Press Service.
Les Algériens, ils ont appris avec beaucoup de consternation, avec beaucoup de douleur, avec beaucoup de chagrin, cette triste nouvelle. Il s'agit réellement d'une hécatombe. Environ 257 selon le premier décompte de communiqué du ministère de l'Éducation nationale, 257 morts, dont une bonne partie sont des soldats de l'ANP, ou de leurs proches, ou de leurs familles. Donc, c'est avec beaucoup de tristesse, d'affliction qu'ils ont appris ça. Et jusqu'à maintenant, les Algériens, ils sont sous le choc. C'est une perte terrible, c'est une hécatombe. De par le nombre déjà de morts enregistrés lors de cet accident.
Une commission d'enquête a été immédiatement mise sur place pour rechercher les causes de cet accident. Est-ce qu'on a quelques premiers éléments?
Non, jusqu'à maintenant, on n'a pas d'éléments sur cette enquête. Elle vient d'être instituée par des autorités compétentes. Il s'agit de chercher maintenant les causes de cette crash. Tous les éléments qu'on a, c'est que lors du décollage de l'avion, juste quelques minutes après, l'avion s'est précipité et s'est affaissé carrément sur, à côté de la base militaire. Donc, il s'agit de prime abord d'un accident, d'un crash. Maintenant, des raisons, jusqu'à maintenant, on n'a aucun élément. Et il peut s'agir d'une faute humaine, d'une erreur de pilotage, par exemple, comme il peut s'agir d'autres choses. Mais pour l'instant, selon le témoignage oculaire, l'avion a décroché, c'est-à-dire il n'a explosé qu'en arrivant à terre, c'est-à-dire quand il s'est complètement affaissé, il a explosé, donc il s'agit bien d'un crash.
Est-ce qu'on sait qui étaient les occupants de l'avion?
Il s'agit d'un avion militaire, en bonne partie des militaires algériens, de jeunes soldats algériens qui se rendraient à leur caserne à Béchar et à Tindouf, et de leurs proches, de membres de leur famille.
C'était Mustapha Aïd Mouhoub, journaliste et rédacteur en chef de l'APS en Algérie.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur la Syrie, théâtre samedi dernier d'une nouvelle attaque chimique présumée, encore une fois imputée au régime de Bachar al-Assad. Les condamnations internationales ont été immédiates, mais vont-elles aboutir à une riposte militaire? Le président américain Donald Trump frappera-t-il Damas comme il l'a fait l'an dernier? Comment réagira la Russie de Vladimir Poutine, l'allié indéfectible du gouvernement syrien? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Le Tchad n'est plus sur la liste noire des États-Unis qui interdisait l'entrée de ses ressortissants sur leur territoire. Washington estime que le Tchad a mis à niveau ses normes de sécurité pour qu'elles correspondent aux exigences de base de la sécurité nationale américaine. L'interdiction sera formellement levée à partir du 13 avril. Pour réaction, Eki Abadou a joint à N'Djamena le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Zene Cherif.
Tout d'abord, nous tenons à saluer la levée de cette mesure que nous avions qualifiée dès le départ d'injuste. Et effectivement, nous sommes d'accord que la mesure ne visait pas le Tchad et les Tchadiens, mais telle qu'expliquée par nos amis américains, elle visait plutôt l'environnement sécuritaire dans lequel le Tchad se trouve et la sécurisation des documents de voyage du Tchad. Quelles qu'en soient les conditions, ce qui est important, c'est que cette mesure qui ne se justifiait pas à notre point de vue a été levé et c'est déjà une bonne chose. Nous avions déjà eu des indications lors de la visite du secrétaire d'État sortant, M. Tillerson, que la mesure allait être levée début avril.
Vous parlez d'indications et quelles étaient ces indications? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la levée est effective?
Il faut reconnaître qu'avant la levée de cette mesure, il y a eu un travail qui a été fait en amont. Effectivement, les services compétents de deux pays ont eu à travailler ensemble pour que la partie américaine puisse obtenir les informations dont elle avait besoin. Je pense que quand le secrétaire d'État sortant a effectué sa visite ici à N'Djamena, les choses étaient suffisamment avancées. La partie américaine était en train déjà de rédiger un rapport soumis début avril. Il y a une forte probabilité que le Tchad soit retiré de la liste. Ce qui fut fait, nous nous en félicitons.
Alors vous en félicitez, les Tchadiens aussi avaient beaucoup parlé d'injustice. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait si finalement énormément de Tchadiens se dirigent vers les États-Unis, voyagent vers les États-Unis?
Les Tchadiens ne faisaient pas partie de ceux qui se dirigeaient en masse vers les États-Unis. Par an, ça ne dépassait pas les 100 ou 200 visas. Donc peut-être le fait que pendant quelques mois, on a privé les Tchadiens de la possibilité de se rendre aux États-Unis ferait que peut-être dans l'immédiat, il y aura un afflux de demandes de visa, c'est fort possible.
Le rapport de force que fait parfois les États-Unis, quel est le regard que vous pouvez en avoir à distance? Parce que vous avez quand même parlé du mot injustice, mais en même temps, vous avez parlé des États-Unis qui est un pays ami.
Justement, en ce moment, mon optimisme a été qualifié peut-être de prématuré, mais nous avions certainement confiance. Nous reconnaissons de façon tout à fait lucide l'importance des États-Unis en tant que partenaire, non seulement pour le Tchad, mais pour tout le continent africain. Et je pense que de notre côté, nous allons mettre tout en œuvre pour que la coopération et le partenariat stratégique que nous avions puissent se renforcer encore davantage.
C'était Mahamat Zeine Chérif, ministre tchadien des Affaires étrangères.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Les manœuvres militaires Flintlock organisées depuis 2005 par le commandement des États-Unis pour l'Afrique a été lancée ce mercredi matin à Ouagadougou, au Burkina Faso. L'exercice permettra de soutenir l'armée burkinabé à faire face au terrorisme. Notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré.
Des forces spéciales américaines, en compagnie des forces spéciales européennes et africaines réunies à Ouagadougou, la capitale burkinabé, pour l'exercice militaire du commandement américain Flintlock 2018. Le colonel Rémi Kabore, chef de la division opération adjoint de l'état-major des armées du Burkina Faso, explique pourquoi cet exercice militaire.
L'exercice Flintlock est un exercice militaire multilatéral, planifié, coordonné et exécuté par les forces spéciales africaines, américaines et leurs partenaires européens. Cet exercice-là vise en fait à encourager les pays à coopérer au niveau de la région, à stabiliser la région transaérienne, en réduisant au maximum les capacités de nuisance des groupes d'extrémisme violent.
Pour cette édition de Flintlock, plus de 1500 soldats, des forces spéciales essentiellement de plus de 20 pays africains participent. Ces soldats maliens qui parlent sous anonymat est au Burkina Faso et espèrent acquérir le maximum dans cet exercice militaire.
Nous avons quitté le Mali, venir au Burkina Faso pour des entraînements. Nous sommes venus en compagnie de soldats américains et des soldats de bien d'autres pays. Et dans cet entraînement, il n'y a que nous arrivons à nous connaître les uns les autres. Et ce que nous connaissons déjà dans notre travail, on peut apprendre plus. Si nos autorités ont eu l'idée de nous mettre ensemble pour ce genre d'entraînement, c'est parce qu'elles ont confiance. Et pour cela, nous allons nous y mettre et ce qu'on va apprendre ici, on va l'utiliser justement pour combattre les terroristes.
En clair donc, la formation permettra de lutter contre le terrorisme. Le chef de la division opération adjoint de l'état-major des armées du Burkina Faso.
Mais de façon concrète, cet exercice va permettre d'acquérir pour nous une sérieuse formation et bien sûr un savoir-faire niveau tactique qui pourront être employés dans l'immédiat, dans la défense des populations civiles au niveau de notre pays et bien sûr de tous les pays participants à cet exercice.
Flintlock, cet exercice militaire multilatéral, est annuel. En plus du Burkina Faso, il est organisé simultanément au Niger ou au Sénégal. Il va durer 2 semaines. C'est le plus grand exercice militaire multinational d'opérations spéciales et d'entraînement entre les nations africaines et leurs partenaires occidentaux. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
La société civile gabonaise dénonce les arrestations arbitraires et la disparition forcée d'au moins trois personnes, dont l'ex-animateur vedette Stimpy Love. Il leur serait reproché d'être proche de Jean Ping, l'opposant. Inquiète, la diaspora gabonaise en France et aux États-Unis demande également leur libération sans condition. Kidnappé par des hommes cagoulés en 2005 et incarcéré en 2015, Le champion de taekwondo, Christian Kombenyango, revient sur ses disparitions forcées au micro de Nathalie Barche.
Nous avons Alain Bella Obian, porté disparu depuis le 18 décembre 2017. Jocelyn Timoro Obam, très connu sous le nom de Stimpy Love Obam, porté disparu depuis le 19 décembre 2017. Et après, nous avons Armel Mouendou, alias Grand Galet, porté disparu depuis le 3 janvier 2018.
Des personnes aux environs de Mélène, c'est un quartier à Libreville, ont témoigné qu'ils ont vu une fourgonnette pick-up blanche avec des personnes cagoulées qui ont pris Monsieur Jocelyn Obam. Donc c'est un pullover.
D'ailleurs, il vous est arrivé quelque chose de similaire, si on peut dire, vous, en 2005?
Tout à fait. En 2005, en sortant d'une conférence de presse où il y avait deux présidents de partis d'opposition gabonaise, le mythique Mambundu, Pierre, président de l'UPG, et il y avait Monsieur Miboto qui avait organisé une conférence de presse. Et moi, à l'époque, j'étais président de l'UPG au premier arrondissement. Et j'étais responsable de la sécurité du président Mamoudou dans le mouvement des jeunes. En sortant de cette conférence de presse, j'ai décidé de pas partir avec le président ce jour. Comme il y avait tellement de foule, il fallait un peu coordonner la foule. Et après 15 minutes de marche, deux pick-up sont arrivés vers moi. Et des officiers de la police gabonaise sont descendus, cagoulés, avec des armes, et me dire cette phrase. « Danger, tu as choisi ton camp, monte ici. »
Et vous êtes retrouvé six jours dans un lieu inconnu, c'est ça?
Je me suis retrouvé six jours dans des lieux inconnus. J'étais pas seul, hein, parce que juste après qu'ils avaient fait la rafle avec moi, ils ont pris un autre Gabonais qui s'appelle Alain Renami, qui est décédé, qu'on avait retrouvé après mort dans un hôtel. Il avait été aussi raflé ce jour-là, et on nous a transporté au commissariat central de Libreville. Et là-bas, il y a le préfet de police qui est descendu avec une note. Il est venu avec un texte en disant qu'il fallait que je signe, dire que je venais de faire des destructions de biens publics.
Les législatives, elles ont été reportées plusieurs fois au Gabon, non ?
Oui, nous allons à la troisième fois bientôt là. Donc ça montre déjà qu'il y a un problème au Gabon sur le plan de la Cour constitutionnelle. La présidente actuelle, Madame Bourenço, qui est là depuis les années 93, je pense que c'est déjà très longtemps, mais comme étant la belle-mère du président de la République, elle est presque inamovible. Mais elle-même aussi, nous voyons aujourd'hui qu'elle n'a même plus de pouvoir devant l'exécutif. L'exécutif fait ce qu'il veut, donc on rapporte les élections.
Est-ce que selon vous, elles vont vraiment avoir lieu au mois de mai ?
Pour aller à ces élections, je pense que ce sera quand même difficile parce qu'il y a beaucoup de tâches par rapport aux dernières élections présidentielles. Jusqu'aujourd'hui, le Parlement n'a même pas encore ouvert une enquête parlementaire. Aujourd'hui, il y a des Gabonais, des familles gabonaises qui cherchent leurs enfants toujours. Nous avons les morgues aujourd'hui très remplies de corps. Nous avons encore des détenus en prison. Et est-ce que les conditions sont prêtes après cette défaillance flagrante qu'il y a eu aux dernières élections où, mathématiquement parlant, c'était pas possible de sortir avec un tel score?
C'était Christian Kombenyango, interrogé par Nathalie Barche.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout, comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
La fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot, à la console, Cédric Franklin. Présentation, Abdelrahman Dia. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com.